Bonjour à tous et bonjour à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau commentaire de la paracha de la semaine, comme chaque semaine, avec le grand rabbin Avraham Harolvei. Monsieur le grand rabbin, bonjour.
Bonjour.
Chodesh Tov.
Chodesh Tov,
bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Rosh Chodesh Adar Rishon, parce que cette année, comme tous les 4 ans, il y a un 2 Adar.
Tout à fait. 2 pour le prix d'un.
Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que pour le mois de Adar, toutes les fêtes, dont Pourim, ce sera pour le deuxième Adar.
Alors surtout Pourim, parce qu'on n'a pas d'autres fêtes au mois d'Adar, mais c'est vrai que Pourim, tout le monde l'attend avec impatience.
Non, et les,
lorsque nous avons deux mois d'Adar...
Aussi,
alors pour les Yortzayt, c'est beaucoup plus compliqué. Pour la fête de Pourim, c'est aussi une discussion. Nous tranchons la halakha comme le deuxième mois de Adar, tout simplement parce que nous avons une obligation de rapprocher au maximum la fête de Pourim de celle de Pessah. C'est ce qui s'appelle l'ismoch geoula li geoula, rapprocher les deux délivrances, donc la délivrance de Pourim de la délivrance de Pessah. C'est un sujet très intéressant, on ne peut pas développer maintenant, qu'on développera dans une autre émission éventuellement, peut-être lorsqu'on abordera la fête de Pourim. En ce qui concerne les Yortzayt, là c'est beaucoup plus compliqué. Il y a une différence entre la tradition ashkénaze et la tradition séfarade pour savoir quand est-ce qu'on va célébrer un anniversaire de deuil lorsqu'une personne est décédée une année classique où il n'y a qu'un seul mois d'Adar et qu'elle est confrontée à une année avec deux mois d'Adar. Les Ashkenazim marquant plutôt le Yortzayt au niveau du premier mois de Adar, les Sfaradim plutôt à la date du second mois d'Adar. En tout cas, si vous avez des questions, comme toujours, bien sûr, n'hésitez pas. Et on ne le dit pas assez souvent, à prendre votre téléphone, à envoyer un message à votre rave, à votre rabbin, un message, un coup de téléphone. Il se fera un plaisir
de
vous répondre et de vous expliquer vraiment en détail.
Alors aujourd'hui, ou tout comme demain, nous dirons la paracha. Alors, on se fait aujourd'hui, demain, maintenant on est au courant. Nous lirons cette semaine la paracha de Mishpatim, l'allumage des bougies aujourd'hui à 17h26 et demain la fin du Shabbat à 18h27. Notons que ce soir, à la Grande Synagogue de Strasbourg, ce sera M. le Grand Rabbin qui fera le message avant Shabbat. C'est toujours bon?
Tout à fait.
Je tiens également, comme ça, on le dit d'un coup...
Et vous faites bien de me le rappeler d'ailleurs.
C'est gentil pour les gens qui vont vous écouter. Vous avez aussi un cours le mardi, c'est ça?
Tout à fait. Il y a un cours qu'on a mis en place il y a maintenant plusieurs semaines. Hein. Ça fait, je crois, 2 mois et demi, 3 mois que ce cours a démarré. Une nouvelle initiative encore de notre ami Stéphane Geisman qui souhaitait donner la possibilité à des gens qui sont pris par leur activité professionnelle ou autre, qui n'ont pas la possibilité de venir participer à des cours le soir parce qu'ils doivent s'occuper des enfants, parce que l'horaire est un peu compliqué. Et le fait de proposer un créneau entre midi et deux, donner l'opportunité à des personnes voilà, qui travaillent et qui de toute façon marquent une pause à midi pour manger, de venir... consommer un anka et en même temps partager un moment de limoud. C'est souvent un moment très pratique. Hein. Les enfants sont à l'école ou à la cantine. On n'est pas obligé de ressortir le soir parce qu'on est déjà en plein milieu de sa journée et qu'on a juste à venir du travail, faire un petit saut à la communauté avant de retourner sur son lieu de travail. Et c'est un cours qui, ma foi, fonctionne bien, assez bien. On a déjà abordé plusieurs thèmes. On vient de commencer un nouveau thème la semaine dernière. Donc on invite vraiment toutes les personnes qui le souhaiteraient à nous rejoindre le mardi midi. Ça se passe au foyer Ayman, premier étage du centre communautaire, et c'est vraiment ouvert à tout le monde.
Donc ça, c'est le mardi...
Ça, c'est tous les mardis, à midi et demi, et on termine à 13h30, sachant qu'il y a l'office de Mincha à 13h30 à Rambam.
Alors, c'est bien, parce qu'apparemment, ça marche plutôt bien, il y a assez de monde qui vient.
Et... Tout à fait, c'est un public très éclectique, et on a des personnes assez... assez régulières, d'autres qui viennent lorsqu'ils en ont la possibilité. C'est pas toujours évident lorsqu'on travaille d'être disponible tous les mardis, surtout pour les personnes qui sont souvent en déplacement professionnel. Le fait d'avoir à la fois des personnes qui peuvent venir toutes les semaines et d'autres qui viennent dès qu'elles en ont la possibilité. Il y a un petit groupe qui s'est formé et je le dis avec un public vraiment avec des personnes de sensibilité très différentes, un peu de tous les âges. Et c'est vraiment un moment d'échange très intéressant.
Alors, on va évidemment souhaiter, comme chaque semaine, un refoua seulement à tous nos malades et un shabbat shalom particulier à toutes les personnes isolées et à nos aînés. Et je voulais, monsieur le grand rabbin, dédier cette émission à quelqu'un qui évidemment m'est très cher, c'est Rivka Bat Shimon, Zichrono Livracha, qui n'est autre que ma très chère maman, Rabbi Kachoukoun. Ça fait maintenant un an qu'elle est partie et que, évidemment, on pense à elle pour son Yatsat, ce sera mardi prochain. On va arriver sur en bas à la paracha de la semaine.
On vous sent très ému, Jean, à juste titre, et je salue à ce micro, sans froisser ni votre modestie ni celle de la famille, la manière extraordinaire dont vous avez accompagné votre maman jusqu'au bout. Et je pense que, voilà, sans cet amour que vous lui avez donné, avec vos frères et sœurs, votre maman ne serait pas restée aussi longtemps avec nous. Donc c'est une très belle manière de lui rendre hommage et de lui dédier une émission de Torah. Je crois que c'est ce qui lui aurait fait plaisir. Ouais. C'est ce qui participe à l'élévation de sa Neshama. Donc c'est très très bien de le faire et je suis très honoré et très fier de pouvoir participer à cette Aliyat Neshama.
Merci.
Parashat Mishpatim, le résumé, c'est très difficile de faire un résumé, lorsqu'on a une parasha dans laquelle on nous propose autant de mitzvot, autant de commandements. C'est une parasha très différente de la parashat Yitro. Là, on est vraiment confronté maintenant à tout un panel de lois civiles. On va bien sûr expliquer dans quelques instants le lien, le switch un petit peu entre les Aseret HaDibrot, les 10 commandements et cette parasha qui nous expose de très très nombreuses lois civiles. Et nous commençons donc avec la loi qui concerne le Eved Ivri. D'ailleurs, choix assez surprenant de la part de la Torah de commencer avec donc les lois qui concernent celui qu'on appelle donc l'esclave Ivri. Et puis, nous avons donc un très grand nombre de lois civiles qui vont être exposées. Ça, bien sûr, dans un résumé, c'est difficile de toutes les détailler, sachant qu'on a presque une loi par verset, par pasouk. Ouais. Ça, c'est donc toute une première partie de la paracha qui est consacrée à ces lois. Et des lois donc fort intéressantes, d'ailleurs, pour comprendre tout simplement les lois de propriété, les lois des dommages commis. À autrui, donc ce sont des lois vraiment passionnantes telles qu'elles sont exposées par la Torah, et nous aurons donc dans une deuxième partie de cette paracha bien d'autres lois qui seront proposées d'un tout autre ordre. On parlera des trois fêtes de pèlerinage, on parlera donc aussi rapidement de la Shemitah, on parlera également de Kashrout même, rapidement, parce que nous rencontrerons la loi extrêmement connue qui concerne l'interdiction de consommer du lait et de la viande. Et nous aurons une dernière partie de notre paracha où là, alors c'est toujours intéressant de voir comment est-ce qu'une paracha s'articule. Et là, on va faire un saut en arrière, on va revenir un petit peu au moment du Mahamad Arsinaï, au moment de ce moment très poignant du don de la Torah sur le Arsinaï, avec la fameuse phrase du Naaseh V'Nishma, cette fameuse phrase, ce fameux engagement qui a été prononcé par le peuple d'Israël, un engagement inconditionnel, où contrairement aux autres nations, le peuple a été capable de dire, eh bien, Naaseh V'Nishma, nous ferons et nous comprendrons, c'est-à-dire vraiment un engagement et une confiance énorme qui est accordée à Kadosh Baruch Hu, à Dieu. Donc la fin de cette paracha va nous renvoyer un petit peu à la paracha Titro, mais on n'est pas spécialement surpris dans le sens où nous le savons dans la Torah, En Mugdam U'Meokhar, il n'y a pas de chronologie dans la Torah, et donc il arrive parfois que nous revenions en arrière dans l'histoire en avançant dans la lecture de la Torah.
Alors, on va avancer. Il y a une question que tout le monde pose, qu'on redit souvent. On vient de vivre un moment énorme, extraordinaire. Les 10 commandements, la Torah, et on s'attend à avoir au tout début de l'histoire du peuple juif des informations fortes, des lois importantes. Et là, on nous parle de quoi ? On nous parle de quelqu'un qui tombe, quelqu'un qui se fait renverser.
La vie de tous les jours, quoi.
Ouais, mais c'est quand même extraordinaire. Pourquoi on a absolument eu besoin de parler de ça tout de suite ? On a dû parler de, je sais pas moi, de la casse-route, du Shabbat.
Alors, je ne sais pas, au travers de votre question, déjà, on sent certains préjugés et peut-être une certaine conception. Non, mais il n'y a rien de... n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis. C'est une certaine conception peut-être un petit peu erronée justement de la manière dont on va hiérarchiser les mitzvot, les commandements. Et vous avez compris que, vous aurez compris en tout cas que la Torah volontairement a choisi de nous parler de ces lois civiles pour bien nous dire que chez nous, il n'y a aucun fossé qui existe entre des lois qu'on pourrait qualifier de lois religieuses. Je dis, c'est très très important, c'est tout le propre finalement et toute la singularité de l'approche de la Torah, c'est de ne pas faire de différence entre des lois ou des lois qu'on pourrait qualifier de lois irrationnelles et qui pourraient justement avoir une connotation un peu plus religieuse parce qu'elles sont des lois justement Ben Adam Lamakom, hein, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Alors, vous avez parlé, le fait de respecter la cacheroute, observer le Shabbat, tout un tas de lois qui vont régir les rapports entre l'homme et Akadosh Baruch Hu et Dieu. Et bien peut-être mettre sur un second plan les lois qui vont régir les rapports entre l'homme et son prochain et les individus. Or, la Torah, justement, a tenu à nous rappeler, et là, on va beaucoup évoquer les lois du Choshen Mishpat. Le Choshen Mishpat, c'est ce quatrième tome du Shulchan Aruch, de notre code de loi, qui est le plus important, qui est le plus gros. On a tendance à l'oublier. J'ai dit, les gens connaissent souvent très très bien les lois du premier tome de Yorah Chaim, hein, toutes les lois qui concernent les ablutions du matin, les bénédictions, les lois de la prière, les lois du Shabbat, les lois des fêtes, etc. Éventuellement, un petit peu les lois de la cacheroute ou celles du Horedea où on nous parle des lois de pureté familiale, etc. Le Even Haezer qui va nous parler des lois du mariage, des lois du divorce, etc. Et puis le Choshen Mishpat, on a l'impression que c'est réservé à une élite, hein, c'est réservé à des dayanim ou à des experts finalement en la matière, alors que tout le monde est exposé à ces lois de Choshen Mishpat au quotidien. J'ai envie de dire qu'on soit commerçant ou qu'on ne soit pas commerçant, peu importe le métier que l'on exerce, ou même si on n'exerce pas de métier, on est forcément confronté à ces lois de Choshen Mishpat, qui sont des lois de voisinage, qui sont des lois tout simplement qui régissent les rapports entre les hommes, qui définissent les domaines, qui définissent les notions de propriété.
C'est technique, quand on dit à la paracha, on voit qu'il faut quand même réfléchir et...
Tout à fait. Est-ce que la Torah a voulu nous dire, tout simplement, en nous présentant ses lois en premier, en créant le lien avec le V et les Amishpatim, il y a une conjonction de coordination, cette conjonction de coordination, elle est forte, elle vient nous dire, elle vient proclamer le fait que la Parashat Mishpatim est une continuité des 10 commandements d'Aseret HaDibrot. Ils ont la même sainteté, ils ont été dit exactement dans le même contexte, et c'est important de commencer avec ces lois pour nous dire que le propre d'un juif, c'est de ne pas vivre sa vie spirituelle, sa vie religieuse, qu'au travers des mitzvot qui le lient vis-à-vis de son créateur, mais de les vivre avec la même intensité, la même force lorsqu'il s'agit des lois qui concernent les rapports avec son prochain. C'est très 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 important. Alors d'autres commentateurs vont voir dans le début de cette parashat Mishpatim une continuité du dernier commandement qui est celui de l'otachmod, l'interdiction de convoiter, sur laquelle on a beaucoup disserté, puisque l'interdiction de convoiter est très particulière par rapport à tous les autres commandements qui sont donnés dans les 10 paroles. Elle concerne quelque chose qui touche à l'intellect. Hein. Les autres commandements sont quand même des commandements plus concrets. Le dernier commandement est très difficile. L'interdiction de convoiter, on en a parlé un peu la semaine dernière, mais tout le monde convoite, c'est un peu naturel. Là, définir des notions de propriété, quand on a demandé à une personne de ne pas convoiter, c'est un petit peu la continuité de ce commandement. On t'a demandé de ne pas convoiter ce qui appartient à l'autre. Maintenant, nous allons définir avec toi quelle est... justement, la propriété d'après la Torah, qu'est-ce qui appartient à l'autre, qu'est-ce qui est considéré comme t'appartenant.
On va avancer parce que il y a tellement de lois que on va pas tous les citer. On va en prendre une ou deux. On va commencer par le début. Eved Ivri.
Alors, c'est un contexte. Déjà, définissons le contexte. Jean, c'est très très particulier. Cet esclave juif est en réalité une personne qui a déjà au départ commis un méfait, en l'occurrence un vol, et qui n'a pas la possibilité de rembourser. Okay. Donc, elle a une dette vis-à-vis de la personne qui a été lésée. Et c'est la raison pour laquelle elle va être vendue en Eved Ivri comme esclave pour pouvoir payer cette dette.
Alors, il y a un... une partie de cette loi qui m'a intéressé, c'est si le Eved Ivri veut rester avec son maître indéfiniment, on lui perce l'oreille.
Tout à fait.
Alors pourquoi pas le bout du pied?
Alors on expose le fait au début de la paracha. C'est très intéressant qu'il y ait une possibilité tous les 7 ans pour ce Eved Ivri de recouvrer sa liberté. Donc il y a des cycles et que si jamais, c'est ce que nous dit donc le début de notre sidra, si jamais cet esclave considère qu'au fond finalement cette position sociale n'est pas si mauvaise, et vous allez tout de suite comprendre ici Jean le hic. C'est qu'on lui donne une opportunité. Vous aurez compris que ce n'est pas par hasard que la Torah lui donne une opportunité tous les 7 ans de recouvrer sa liberté. C'est une invitation obligation, en réalité, à recouvrer sa liberté. C'est pas simplement une possibilité. C'est ce que la Torah souhaite. La Torah souhaite que cet homme-là puisse absolument avoir la possibilité de retrouver une certaine forme d'autonomie, une certaine forme d'indépendance, parce que c'est cela qu'on attend de cette personne. On le rappelle, cette personne s'est retrouvée dans cette situation parce qu'au départ, il y a eu une erreur de sa part. Parce qu'au départ, elle n'a pas su se retenir. La Torah lui demande de ne pas voler. Elle n'a pas été capable de surmonter ce désir profond qu'elle avait, ou cette nécessité, peut-être, peu importe. En tout cas, cette interdiction du vol, on lui donne maintenant une possibilité de se rattraper. Ça y est, maintenant, elle a payé sa dette. On lui donne une possibilité de recouvrer sa liberté, de commencer une nouvelle vie. Mais une nouvelle vie où elle soit à nouveau capable de se confronter à la difficulté, de s'engager. Alors, cette personne pourrait estimer qu'au fond, finalement, cette position n'est pas si mal, parce qu'elle lui évite de prendre des risques. Vous savez, tout recommencer de zéro, se retrouver seul, j'ai envie de donner un petit peu l'exemple d'une personne qui sortirait de prison, qui doit se reconfronter à la vie réelle. Et combien de personnes on a vu recommencer des méfaits et qui, lorsqu'on a une discussion, lorsqu'elles sont interrogées par la suite par des psychologues ou autres, eh bien, vont avouer finalement avoir recommencé, être retombés dans leur travers, mais sciemment, volontairement, dans l'objectif justement de retourner dans un milieu qui, certes, est un milieu dans lequel il y a une privation de liberté. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que l'esclave était dans les mêmes conditions aujourd'hui qu'une personne qui serait en prison. Il faut raison garder. Je suis simplement en train de faire une comparaison sur l'esprit et sur la démarche ici, la démarche psychologique qui peut pousser une personne finalement à vouloir retourner dans une situation qui, certes, n'est peut-être pas une situation idéale, mais une situation dans laquelle elle se sent en sécurité. Alors on lui perce l'oreille. Pourquoi est-ce qu'on lui perce l'oreille? Alors bien sûr, ça peut paraître assez sauvage, ça peut paraître extrêmement étonnant comme démarche de la part de la Torah. L'oreille est bien sûr entre deux portes. On plaçait cette personne entre deux linteaux, donc il y a un symbole très très fort aussi. La porte, c'est bien sûr la porte qui permet à cette personne, c'est la porte de sortie. Une porte, c'est ce qui permet de passer d'un domaine à un autre domaine. On ne peut pas rentrer chez quelqu'un sans passer par la porte, donc la notion ici de la porte est très très importante. Elle vient dire à cette personne: tu as l'opportunité maintenant de sortir pour reconstruire ta vie. Voilà, la vie qu'Akadosh Baruch Hu attend de toi. Pas une vie d'assisté, mais une vie où ce soit toi qui puisse te prendre en main. Or, tu ne choisis pas cette option, tu choisis de rester chez ton maître. Donc, c'est la raison pour laquelle on te place devant cette porte. Et en perçant cette oreille, cette même oreille qui malheureusement n'a pas su écouter l'interdiction du vol, l'interdiction du vol Lotignovu, qu'on va voir d'ailleurs dans notre paracha, et qui n'a pas été donc capable d'écouter cette interdiction et qui n'est pas non plus capable d'écouter ce qu'Akadosh Baruch Hu a dit, à savoir vous serez, entre guillemets, mes esclaves, voilà, et pas les esclaves de quelqu'un d'autre. Donc tu as une opportunité maintenant de te racheter par rapport à la première erreur qui a été commise par cette oreille, qui a été peut-être un petit peu distraite. Or cette oreille va pécher une deuxième fois. Et là, j'ai envie de dire que c'est la foi de trop, donc c'est la raison pour laquelle on va marquer un petit peu cet organe, symboliquement bien sûr, qui est ici l'organe de cette erreur et qui malheureusement n'a pas saisi cette chance.
Alors on va évidemment parler maintenant de quelque chose d'intéressant aussi. Un mot, parce que sinon on ne va pas y arriver.
On y arrivera toujours. Oui. On a toute la vie devant nous. On a plein de mishpatim encore. Voilà. Alors, 2025, 2026, 27, où on pourra continuer à parler de la paracha.
Il y en a une où je trouvais ça totalement bizarre, c'est si quelqu'un tombe dans le trou...
Ah oui, ça vous a marqué. Ça vous a marqué, l'histoire de la chute dans le trou.
Alors, c'est pas commun.
Vous avez bien compris que le trou n'est qu'un exemple représenter le danger qui pourrait être laissé par une personne sur la voie publique. Donc un trou, vous pouvez imaginer autre chose. Vous pouvez imaginer une peau de banane, vous pouvez imaginer quelqu'un qui a laissé une pierre traîner par terre, une brique, n'importe quoi.
Maintenant, il y a des routes et tout, c'est balisé.
C'est balisé. Là, on parle. C'est pour ça que je dis que de cet exemple du trou, en réalité, vous pouvez extrapoler un dommage qui serait laissé par une personne sur la voie publique, qui n'aurait pas pris soin de retirer ce dommage et qui donc aurait causé une blessure à autrui et qui est donc tenu pour responsable. Mais donc c'est un exemple finalement très fréquent parce que vous pouvez tout à fait le contextualiser vraiment à souhait. Je suis sûr que vous avez plein d'idées par la tête d'obstacles qui pourraient être laissés par une personne sur la voie publique et qui serait la source d'un dommage causé à autrui. Maintenant, c'est amusant parce que vous me parliez de trous. Moi, je trouve que c'est parfaitement... C'est un exemple, finalement, pour le coup, qui est extrêmement actuel. Autant, on a l'habitude d'entendre que les exemples qui sont donnés par la Mishnah, par la Gemara, avec les histoires d'animaux, etc., il faudrait peut-être les contextualiser aujourd'hui avec les voitures, etc. Autant les histoires de trous, je peux vous dire que ça existe toujours. On a actuellement, notamment dans notre quartier, beaucoup de travaux. On a justement beaucoup de trous. Il y a beaucoup de creusements qui ont été faits. On est en train de refaire les canalisations et autres. Et je peux vous assurer que parfois, la sécurisation est extrêmement limite. Et donc, on est vraiment complètement dans ce dont la paracha nous parle.
On avance dans la paracha. Alors, on a dit qu'il y a plein de lois. Il faut les relire, les comprendre, parce que c'est, vous l'avez dit, pas aussi simple qu'on veut le croire. Finalement, on s'arrête et on parle de Shabbat, des fêtes, des trois fêtes de pèlerinage, Shavuot, Sukkot, Pessah, et en même temps, on nous met une petite phrase sur la Shemitah. Alors, Shabbat et les fêtes, je comprends, par contre, la Shemitah, je comprends, on l'a mis dans le lot.
Alors, on nous parle de la Shemitah avant de nous parler de Shabbat. Alors, d'après certains commentateurs, c'est parce qu'on vient de nous parler de l'interdiction d'opprimer l'étranger. Et le passage nous dit « Vatem yedatem et nefesh hager, kirgiri meitem bemitzraim ». Donc, voilà, on nous parle du respect, finalement, ici, du sentiment de l'étranger, du guerre, parce que nous-mêmes avons été guéris en Égypte. Et juste après, donc, on va nous parler des six années d'ensemencement de la terre, Vea Savta et Tevuata, le moment où donc, on va recueillir le produit de la terre, et Ashvit, effectivement, la septième année. Pourquoi ? Parce qu'on va faire le parallèle ici, les conséquences finalement de cette Shemitah, qui donne l'opportunité, Vachlou et Vionne Amecha, aux indigents de pouvoir se nourrir. Et donc, finalement, il y a un lien avec le verset précédent, et c'est par association d'idées ici que ce verset a été placé. Bien évidemment, les lois de la Shemitah, et c'est pas la seule mitzvah, c'est que pour plusieurs mitzvot, plusieurs commandements, il y a des allusions qui peuvent être faites à des mitzvot qui vont être détaillées à d'autres endroits dans la Torah. Ce sera bien évidemment le cas pour la Shemitah. Jean, dans quel parasha on nous parlera de la Shemitah en détail ?
Bonne question.
Parashat Béar, tout à la fin du livre de Vayikra. Donc, on a encore quelques Shabbatot devant nous avant de pouvoir se consacrer en long et en large à cette mitzvah de Shemitah, donc sur laquelle on reviendra de manière extrêmement détaillée dans la Parashat Béar.
Dieu promet au peuple de donner la terre, mais pour la garder, il a mis une condition. C'est quoi cette condition ?
Alors, bien sûr, il y a une condition de garder cette terre en n'adoptant pas les coutumes qui sont celles des autres peuples. C'est que la terre d'Israël est un milieu, à ce moment-là, extrêmement hostile au niveau des mœurs. Les peuplades sont vraiment un contre-exemple. On l'a vu avec Mitzrayim. Et donc, on va beaucoup revenir là-dessus. On va beaucoup insister sur l'attachement que le clan d'Israël doit absolument avoir au mitzvot sur sa terre et le danger qui pourrait vraiment guetter ici le clan Israël, de vouloir un petit peu imiter les mœurs qui ont été adoptées par les peuples.
On ne peut pas devenir comme un autre peuple, on ne peut pas être dans l'humanité.
On va beaucoup revenir sur cette idée, on y reviendra dans la paracha Tebor, dans la paracha Kedoshi, avant, sur la nécessité pour le clan Israël d'avoir cette dignité sur sa terre et de comprendre que le rapport à la terre doit être aussi un rapport au mitzvot. Ce n'est pas simplement un rapport où on va devoir travailler sa terre, etc. Tout ce qui se passera sur la terre d'Eretz Israël devra se faire dans le respect absolu des mitzvot. On l'a compris, l'entrée sur la terre d'Israël est l'aboutissement du Mahamad Arsinaï. Et donc, il y a un lien, bien sûr, très ténu qui existe entre ces deux événements. Et si le clan Israël veut ne pas être rejeté de sa terre, à lui d'avoir un comportement digne sur cette terre. Et un comportement digne, eh bien, c'est d'être capable d'être dans le respect des mitzvot, dans le respect aussi bien des lois Ben Adam Lamakom que des lois Ben Adam Lachavero, donc entre un homme et Dieu,
juste traduction,
Ben Adam Lamakom, entre un homme et Dieu, Ben Adam Lachavero, entre un homme et son prochain.
On va évidemment parler de la phrase de cette paracha, Naaseh V'Nishma, on fera et on comprendra après.
Oui, dans la paracha Yitro, on n'a pas cette phrase. On s'attend à la trouver au moment où on nous détaille tout ce marmad Arsinaï. Or, on ne va retrouver que le mot Naaseh dans la paracha Yitro. Kol Asher Diber Hashem Naaseh. Le Naaseh Venishma avec la deuxième partie qui donne corps un petit peu à cet engagement du clan Israël, du peuple juif, c'est cette semaine. Donc Naaseh, littéralement, donc Naaseh nous ferons.
C'est un peu bizarre.
Littéralement nous ferons, Venishma et nous comprendrons. Alors, on peut rentrer dans des explications très, très, très complexes. On peut s'en tenir au pshat, bien sûr, qui est cet engagement qu'a eu le clan Israël, qui l'a un petit peu différencié justement et qui a fait que le peuple juif immédiatement a été, on va dire, un petit peu élevé spirituellement par rapport à la mission spirituelle qui est la sienne au-dessus des nations, dans la capacité qui est la sienne, comme je l'ai dit, à s'engager de manière inconditionnelle. Inconditionnel, ça nécessite bien sûr une confiance. On ne peut pas s'engager de manière inconditionnelle sans confiance. On a plusieurs midrashim qui vont d'ailleurs rappeler à quel point le clan Israël a essayé d'être mis un petit peu en défaut par rapport à cet engagement. Certains lui ont reproché une certaine forme de naïveté, de candeur dans cette propension qui était la sienne à s'engager, peut-être sans réfléchir. Est-ce qu'il viendrait à l'idée de quelqu'un de signer un contrat sans en avoir lu les termes? C'est très important de lire les termes d'un contrat. On ne s'engage pas si on ne sait pas à quoi on s'expose. La force du clan Israël ici a été de faire une confiance absolue à Kadosh Baruch Hu, en estimant que Dieu ne peut pas vouloir quelque chose de mauvais pour l'homme, et donc je suis d'accord de m'engager, je suis d'accord de signer. Ce Naaseh Venishma, il faut le savoir, même si malheureusement le peuple d'Israël va très rapidement en perdre le bénéfice suite à la faute du veau d'or, mais il faut savoir que ce Naaseh Venishma est le Maharal de Prague. Je vous invite vraiment à lire tout un tas d'écrits dans lesquels le Maharal de Prague va mettre en avant cette idée. L'idée du Naaseh Venishma est un leitmotiv dans l'histoire du peuple juif. Et le Maharal de Prague va très régulièrement dans ses écrits revenir
encore aujourd'hui
tout à fait sur le fait que ce qui a tenu le clan Israël, le peuple juif, au travers des générations, c'est ce Naaseh Venishma. Ce qui a fait que parfois Kadosh Baruch Hu a décidé un petit peu de détourner sa colère, c'est par le mérite du Naaseh Venishma. Ce mérite-là qui a été prononcé, pas simplement par nos ancêtres, mais par tout le monde, puisqu'on dit que toutes les Neshamot, toutes les âmes du peuple d'Israël, même celles qui n'étaient pas encore descendues à ce moment-là dans des corps, donc les âmes des personnes à venir, des membres à venir du clan Israël, étaient présentes à ce moment-là, ont pris cet engagement. Et c'est cet engagement qui a permis au clan Israël de se maintenir dans générations. Donc c'est vraiment pas un détail ici de l'histoire du clan Israël, on est sur quelque chose d'absolument fondamental, et vraiment je vous renvoie au Maharal, parce que j'aime beaucoup le Maharal, et qu'il développe cette idée de manière extrêmement brillante. Je pense entre autres à ce chapitre du Tiferet Israël, le chapitre 32 du Tiferet Israël, qui est vraiment un morceau d'anthologie du Maharal de Prague.
Il reste une minute 30 pour la dernière question. À la fin du Chumash, il y a une petite note, il y a un petit code qui nous informe que cette paracha comporte 118 versets. Et puis on explique quelque chose, je n'ai pas tout compris.
Alors je vous avoue, je ne suis pas plus intelligent que vous, vraiment,
si.
Jean. Alors effectivement, si on s'en tient à cette petite note que vous rappelez, il y a effectivement 118 psukim, on a toujours des moyens mnémotechniques qui nous sont donnés. Et donc on a ici deux mots avec la même valeur numérique qui sont rapportés, qui peuvent être des moyens mnémotechniques. On a le mot de Oziel, qui veut dire littéralement « Akadosh Baruch Hu, Dieu, Ozi est ma force ». Et le mot « Hanani », qui veut dire « Dieu m'a pris en grâce ». Hein, en quelque sorte, j'ai trouvé grâce à ses yeux. Ou « Hanani », qui est littéralement voilà, « ma grâce ». Alors on peut expliquer ces allusions de plusieurs manières. Je vais donner une explication, notamment sur le deuxième mot. Donc on a une explication pour retrouver dans nos Chumashim, notamment le Chumash Art Scroll, du Rav Feinstein. Est-ce que vous connaissez le Rav Feinstein?
Non.
Vous connaissez Rav Moshe Feinstein?
Oui, ah ben de nom. Non,
voilà, Rav Moshe Feinstein a un fils aussi extrêmement brillant, Rav Moshe Feinstein qui a été le plus grand décisionnaire du XXe siècle, qui habite aux États-Unis et qui est vraiment une figure de la halakha et du monde rabbinique, et qui a, Baruch Hashem, des enfants aussi très brillants, et notamment donc un fils qui laisse entendre que finalement par la capacité d'un homme à appliquer ses mishpatim. On l'a dit, c'est très difficile d'appliquer les mishpatim, Jean, parce que les mishpatim, on n'a pas forcément l'impression quand on les applique, vous l'avez dit en début d'émission, que ce sont des lois envoyées par Akadosh Baruch Hu. Nous, on a l'impression que simplement, on est en train de faire des choses naturelles pour permettre à une société de se maintenir. Ouais, alors, les mishpatim sont des lois de Dieu. Et donc, en appliquant finalement les mishpatim, eh bien, c'est là où finalement on devient quelqu'un de gracieux, finalement. Quelqu'un de gracieux, c'est pas, voilà, qu'on peut, c'est pas avoir un sourire de façade, etc. C'est être capable, dans son comportement, d'avoir quelque chose qui s'apparente justement au chen, à la grâce. C'est une éducation personnelle, c'est un travail sur soi, un travail sur ses midot, un raffinement finalement de son rapport aux autres, dans sa manière de les fréquenter et d'échanger avec eux au quotidien.
Voilà, soyez gracieux. Merci monsieur le grand rabbin. Shabbat shalom, merci à Thomas pour la gestion technique. Shabbat shalom, rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu veut.